Très heureux d'être avec vous ce soir en direct de Toronto pour cette soirée spéciale d'intronisation de Guy Carbonneau au Temple de la Renommée. Peut-être juste une petite nuance sur ce que Bob Guénin nous révélait tout à l'heure. Je ne sais pas si on s'est perdu dans la traduction, dans l'incompréhension des fois de ne pas avoir toute la bonne signification des mots, mais c'est sûr que Bob va être sur l'estrade pour l'intronisation de Guy, mais je ne sais pas s'il va prononcer un discours ou s'il va lui remettre une plaque. Mais il est clairement impliqué. On verra comment tout ça va se développer tout à l'heure. Les sujets sont nombreux à commenter pour notre ami Philippe Quentin, que j'accueille à l'instant. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Philippe, avec Jonathan Drouin, sa blessure, Paul Byron, ouais. Les deux matchs du week-end, l'arrivée de Thierry Henry, des matchs de Coupe Davis et Carbo. J'ai envie de te demander par où tu veux commencer, puis je te suis.
Bon, écoute, je pense que je vais commencer avec Carbonneau, Mario, parce que c'est quand même unique ce qui lui arrive, et puis ça mérite certainement le respect. Ce qu'il a accompli dans sa carrière, Guy Carbonneau. Puis je pense que tout le monde a fait le tour au cours des derniers jours de sa réussite comme joueur. Du fait qu'il a été un des meilleurs attaquants défensifs de sa génération. Mais moi, je voudrais te parler aussi d'un aspect qu'on a peut-être un peu moins évoqué. C'est combien Guy Carbonneau a été un leader au niveau de l'association des joueurs.
Ah oui?
Puis ça peut, oui, parce que tu sais, il y a eu des conflits de travail à l'époque, dès 1992. Les gens ont oublié celui-là parce que c'est pas toute la saison qui a été annulée, mais une dizaine de jours au mois d'avril, il y a eu une grève des joueurs à ce moment-là. C'était pas un lockout. Et Guy Carbonneau était très impliqué au niveau de l'association des joueurs et tout le positionnement public avait commencé plusieurs mois auparavant. Et bien sûr, du côté patronal à Montréal, c'était Serge Chavard qui occupait la place prépondérante. Et en Guy Carbonneau, Serge Chavard a trouvé un répondant qui était bien, bien, bien au fait des enjeux. Et moi, j'ai couvert ce conflit-là et je regardais les articles que j'ai écrits sur les uns et les autres. Et bon, Serge Chavard donnait un argument, Guy Carbonneau répliquait, Chavard en rajoutait, Guy Carbonneau aussi. C'était vraiment de belles passes d'armes entre les deux hommes, empreintes de respect, mais chacun défendait son territoire avec beaucoup, beaucoup de panache. Et je pense que Guy Carbonneau, pour plusieurs personnes, notamment ses coéquipiers, s'est vraiment révélé à ce moment-là comme intervenant crédible au-delà du jeu sur la patinoire. Ça, tout le monde le savait déjà qu'il était très bon, puis il avait déjà accompli des exploits, puis il avait déjà gagné une Coupe Stanley. Mais là, on a vu qu'il y avait du coffre, Tom Hum, qui était capable. Moi, des fois, il me faisait penser à un avocat de la défense, parce que, évidemment, en 92, quand il y avait le conflit sur la place publique, le peuple, les amateurs de hockey, étaient contre les joueurs. C'est comment ils peuvent faire des centaines de milliers de dollars puis tomber en grève à la veille des séries éliminatoires? Ça n'a pas de bon sens. Alors, ils n'avaient pas le beau rôle dans l'opinion publique. Et Guy Carbonneau, à force de pédagogie, puis de patience, puis de répondre aux questions des journalistes, a réussi très certainement, je pense pas qu'il a réussi à amener tout le monde de son côté, là, mais il a certainement réussi à bien faire valoir les arguments des joueurs. Et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Carbo était à cette époque-là d'une disponibilité complète. Moi, je me souviens des fois, Mario, il y avait un développement qui arrivait, disons, tard, vers 21h30, puis j'appelais Carbo à la maison, puis il me répondait, puis on avait une citation le lendemain, de façon à ce que les joueurs aussi voient au chapitre. Et moi, pour moi, là, c'est à ce moment-là que je l'ai trouvé le plus impressionnant.
Ben, c'est fort intéressant que tu amènes un peu de lumière sur cet aspect-là de sa carrière. Puis j'ai envie de rebondir avec un autre aspect de sa carrière dont on a un peu parlé récemment, c'est son séjour derrière le banc du Canadien, pour la simple et bonne raison que je viens d'avoir l'occasion de m'entretenir avec Bob Guénin. Et Bob Guénin sera sur l'estrade tout à l'heure en même temps que Carbo, soit pour lui dire quelques mots, soit pour lui remettre sa plaque. C'est fort comme image quand même de revoir ces gars-là ensemble toutes ces années-là après, surtout après que leur association se soit terminée de la façon qu'on connaît quand Bob a remercié Carbo. Mais Bob nous a dit ce soir, il dit, nous, pas Carbo ni moi, nous n'avions plus la même chimie ensemble quand on s'est réassociés pour diriger à Montréal, toutes les années après lesquelles ils ont joué ensemble. J'ai trouvé ça intéressant, mais au-delà de tout ça, au-delà des choses qui ont bien fonctionné et qui ont moins bien fonctionné, c'est quand même de les voir ensemble, je sais pas à quel genre d'accolade on aura droit, mais c'est une image qui va boucler la boucle de la relation professionnelle entre les deux, Philippe, non?
Oui, sans doute. J'ai l'impression qu'il va toujours rester quelque chose quand même, parce qu'on sait très bien que Guy Carbonneau n'a jamais trop compris pourquoi il avait été remercié de ses services par Guénin. puis ça lui a fait mal, on le sait, c'est un gars fier, un gars entier qui était immensément heureux de diriger le Canadien, et je pense que pour lui, ça a été vraiment un jab au menton, mais solide, là. Et ça a été dur pour lui, et oui, avec le passage des années, c'est sûr, ils ont tellement vécu de choses en commun, ils ont tellement vécu de grandes réussites, je pense que c'est ça qui va prendre l'avant-plan dans leur mémoire à tous les deux. Mais c'est ça, les années passent, puis c'est intéressant quand il te dit justement, Bob, que ils n'avaient plus la même chimie. Ben, c'est ça, c'est des fois, au fil des années, on prend des routes différentes, des directions différentes, puis ça devient plus difficile. Alors, moi, je suis content de le voir quand même là, et de voir qu'ils sont capables de se réconcilier.
Bien sûr.
Ça va aussi loin qu'une réconciliation, là, mais de voir que Bob Gainey est là pour applaudir son ancien coéquipier dans un des moments les plus significatifs de son après-carrière. Je trouve ça magnifique.
Juste pour fermer ce dossier-là, et si ça peut ajouter à la perception qu'on en a, Carbo a quand même dit, en soupçonnant qu'il y avait des chances que Bob soit sur l'estrade pour l'accueillir, pour parler, a dit, je préfère garder la surprise, ça va être une belle surprise. Alors, je pense qu'il est prêt à accueillir ce moment-là. On n'était pas prêt à recevoir des nouvelles comme celle-là, cependant que Jonathan Drouin était blessé, et qu'en plus de ça, je suis pas sûr que le Canadien avait l'intention de dévoiler la durée de l'absence. Alan Walsh, l'agent, s'en est chargé. On parle de 8 semaines. Byron, tout ça après un week-end de 3 points sur 4, comment t'accueilles la nouvelle?
Ben, tu sais, on aura amplement le temps de voir quel sera l'impact, Mario, sur le rendement du Canadien. Moi, je pense que ça va être un impact important parce que Jonathan Drouin jouait du très, très gros hockey, puis on sait que le Canadien, même s'il met beaucoup de buts à 5 contre 5, pour moi, c'est une équipe qui doit quand même se batailler tout le temps pour marquer des buts, puis Jonathan Drouin est un des rares joueurs offensifs extrêmement talentueux, capable de faire des gestes sur la patinoire qui surprennent l'adversaire. Alors, je pense qu'on va beaucoup manquer ses services. Mais au-delà de tout ça, moi, c'est sur le plan individuel que ça me fait de la peine. Parce que je regarde le parcours de Jonathan Drouin depuis un an. Ça n'a pas nécessairement été facile. On sait tous qu'il avait bien commencé la saison dernière. La deuxième moitié a été pas mal catastrophique. S'il avait marqué plus souvent, il n'y a aucun doute peut-être que le Canadien aurait participé aux séries éliminatoires. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça existe. S'il avait été meilleur, s'il avait marqué 2-3 buts de plus, peut-être que ça aurait fait la différence. Mais là, après ça, pendant l'été, il est resté au Québec. Il a été dans les différents tournois de golf. Il est allé dans d'autres activités. Il s'est jamais caché. Il a répondu aux questions des journalistes. Il a répété à tout le monde qu'il voulait connaître une meilleure saison, qu'il avait fait un examen de son rendement, puis des vidéos avec Dominique Ducharme, puis tout ça. Là, arrive le camp d'entraînement. Tout le monde est plein d'espoir, puis boum, pétard mouillé. Il n'y a rien qui se passe. Un camp d'entraînement très ordinaire. Ça regardait mal. Et pourtant, quand la saison a commencé, Jonathan Drouin a répondu présent, puis il a connu des moments magiques. Puis en plus, Mario, ce qui pour moi est tellement important, c'est qu'il a développé une relation avec le public, avec les amateurs. Mm-hmm. Quand il y a eu la première étoile du match au Centre Bell, on l'a vu à deux reprises. Les gens étaient tellement contents. Lui, il a remercié des gens. Il a dit combien c'était important, cette espèce de communion avec le public. Puis ça fait longtemps qu'on a vu un joueur du Canadien comme ça. Il y en a beaucoup qui ont réussi, qui ont reçu des témoignages extraordinaires. Je pense à Carey Price, qui a eu des ovations. Mais Price, c'est toujours plus difficile pour lui d'exprimer publiquement ses sentiments. Alors que Jonathan Drouin, lui, il l'a fait. Puis ça a été des beaux moments là au micro après la diffusion des matchs. Alors, je regarde ce gars-là qui connaissait une saison qui devait certainement combler ses espérances, qui était prêt à enchaîner encore avec du gros hockey. Et là, bang, une blessure au poignet, 8 semaines minimum d'absence. C'est vraiment dur pour un jeune joueur comme ça.
J'ai hâte de voir quel impact son absence à long terme aura, et c'est pas la colonne des stats qui va me l'indiquer, mais il reste qu'il n'a pas marqué dans les 6 derniers matchs. Il a marqué un but en tir de barrage, ça a fait la différence, il a donné un point supplémentaire aux Canadiens à ce moment-là. Il a 3 passes dans ces derniers matchs-là. Le Canadien, en tout cas, on va voir là, un test de profondeur, un test de caractère. Byron absent également. Mais bref, on aura l'occasion d'y revenir parce que dans le fond, j'aimerais ça.
Il va falloir juste attendre un peu de temps parce qu'on sait souvent combler l'absence d'un bon joueur. Ça se
pour une courte période.
Sur le plus long terme, c'est difficile. Alors, on va voir. Ça va nous donner une bonne idée aussi de son importance pour le Canadien. Je pense que c'est un petit peu ça que tu veux.
Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que Philippe, Jonathan, moi, j'ai pas l'impression que le Canadien a perdu sa colonne vertébrale. J'ai l'impression qu'ils ont perdu quelqu'un qui essaie de se greffer à la colonne, d'en faire partie. Il est en processus 2, comme tu l'as bien mentionné, avec son bon début de saison. Puis j'espère qu'il va poursuivre là où il l'a laissé quand il va revenir. Thierry Henry est arrivé en ville jeudi soir dernier. Et là, c'était sa véritable prise de contact avec le marché. Tu étais sur place, Philippe. J'ai eu l'occasion d'entendre l'entrevue de Jérémy avec Thierry Henry. Et je voulais avoir ta perception de ce point de presse aujourd'hui, de ce nouveau départ pour l'Impact.
Ouais, ben écoute, c'était une conférence de presse aujourd'hui qui était très intéressante. D'abord, Thierry Henry, tu sais, c'est un homme qui en impose, là. Il est arrivé comme un prince en conférence de presse d'abord. Et il est vêtu comme une carte de mode, il dégage une autorité naturelle, du charisme aussi, absolument aucun doute là-dessus. Alors, là, tout le monde le regardait en disant une légende du football international, coach de l'Impact de Montréal, c'est quand même extraordinaire. Et je pense que pour l'Impact, ça a été un moment de grande réjouissance. Et Thierry Henry a été vraiment très bon aujourd'hui. Moi, je lui donne une note de 10 sur 10, sans hésitation, pour ce premier contact avec le public. Il a dit toutes les bonnes choses, mais sur Montréal, sur le Québec, l'entrevue que Jérémy a réalisée, d'ailleurs, était très éloquente à ce sujet-là.
Oui.
J'ai noté aussi qu'en conférence de presse, il y avait une connaissance de l'Impact. Tout à coup, il a dit, et ça m'a beaucoup marqué, il a dit « c'est dur pour des joueurs ». Il n'a pas dit dans ces mots-là, mais ce que ça voulait dire, c'est dur pour des joueurs locaux de briller parce qu'il y a plus de pression. Il appelait ça « quand on joue à la maison ». Mais quand on joue à la maison, il ne voulait pas dire les matchs locaux au Stade Saputo. Non, il parlait des joueurs québécois. Et parce qu'il a mentionné leur nom, il les appelait uniquement, tu sais, par un nom. Anthony, bon, c'est Jackson Hamel. Tu sais, il a parlé de Piette aussi. Alors, tu sais, il a nommé les joueurs comme ça. Donc, il savait très bien quel était un peu le défi d'un joueur qui joue dans sa propre ville, dans son propre milieu. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas tant la remarque qui, à la limite, est un petit peu banale. On sait souvent que c'est plus dur de jouer dans son propre milieu, mais c'est qu'il savait très bien de qui il s'agissait. Il connaissait très bien les joueurs en question. Il était capable de mettre, tu sais, tout de suite des noms autour de ça. Il parlait de Patrice Bernier. C'était des pattes gros comme le bras. Tu sais, donc, moi, je l'ai senti déjà immersé dans l'univers de l'Impact. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Puis si on compare, par exemple, avec Rémi Garde, quand il est arrivé, sa première conférence de presse, il avait été très bien aussi, Rémi Garde.
Oui.
Peut-être qu'il parlait un petit peu plus de coaching que Thierry Henry, là, tu sais. Mais c'était clair qu'il connaissait très peu l'Impact. Il connaissait pas du tout Major League Soccer. Alors, Thierry Henry, beaucoup moins d'expérience comme coach, par contre une très meilleure connaissance de l'Impact et de Major League Soccer. Alors, il a l'air de vouloir travailler.
En conclusion, moi, l'élément qui a retenu mon attention de l'entretien, parce que j'ai pas vu le point de presse, je dois te l'admettre, je suis en avion, mais de l'entrevue de Thierry Henry avec Jérémy, c'est quand il a parlé de Patrice Bernier, confirmant qu'il allait être son adjoint, et en disant c'est son club à Patrice. Ça a toujours été son club, c'est son club pour la vie. Et là, j'ai comme vu l'image. Je sais pas combien de temps Thierry Henry va être ici en ville, mais on sait déjà qui va lui succéder, on dirait.
Oui, ben peut-être. Écoute, on verra bien. C'est sûr que s'il y a du succès, Thierry Henry, il va attirer l'attention en Europe. Puis c'est peut-être ça son plan. Puis c'est bien correct que ce soit son plan. Il y a certainement cette ambition-là. Puis ici, là, en tout cas, c'est une ambition fort légitime. Maintenant, avec l'Impact, rester l'Impact avec l'Impact à vie, c'est pas vraiment dans l'ADN de l'organisation. Ça. On n'a pas vu des gars comme Nick DeSantis, Mauro Biello, qui ont passé des années avec l'Impact, mais tout à coup, ça s'est mal terminé. Mm-hmm. Alors, soyons prudents avec les avis.
Non, mais c'est sa vision. En quelques secondes, je dois aller à la pause, mais dans sa vision, lui, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il le voit maintenant, comment ça va se transformer en réalité.
C'est clair que c'est un beau vote de confiance en Patrice Bernier, et là, Patrice Bernier, ce sera à lui de saisir cette occasion-là pour progresser comme coach. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Hey Philippe, merci beaucoup d'avoir veillé jusqu'à la fin de l'émission avec nous ce soir, exceptionnellement.
Ça fait plaisir. Bonne soirée à Toronto. Puis,
merci, on se reprend. On se revoit au bureau, comme on dit. Ciao.
Okay,
salut,
ciao.
Philippe. Voilà, alors on revient pour le mot de la fin en direct de Toronto.